Interview BO par Benoît Bazerico.
Écoutons le réalisateur Stéphane Castan et le compositeur John Cassède pour le film Vincent doit mourir. Il s'agit d'un premier long métrage.
Avec John, on a une collaboration qui date d'il y a un moment maintenant, parce que nous nous sommes rencontrés sur des spectacles, parce que tous les deux, on a flirté longtemps avec le théâtre. Et moi, j'étais comédien sur des spectacles où John composait la musique. Et dès que j'ai commencé à faire des courts-métrages, j'ai toujours proposé à John d'être mon collaborateur à la musique. Et comme pour moi la musique est un élément très important, pour moi c'est un élément dramaturgique, c'est presque le deuxième scénariste, cette aventure qui est un premier long métrage, bien sûr pour moi il n'était pas possible que ça se fasse sans John. On a poursuivi une manière de travailler qu'on avait déjà explorée à travers les courts métrages, à savoir que en fait la première personne à qui j'ai proposé de bosser sur le film, c'est John. Moi je suis arrivé sur le projet il y a 3 ans. Et donc, John, on a commencé à travailler il y a 3 ans. Et la musique était l'essentiel, presque la quasi-totalité de la partition était composée avant le tournage. Ce qui permettait justement, pendant la préparation aussi, de faire écouter la musique aux acteurs, aux chefs opérateurs, à la déco. Déjà pour leur donner une idée de l'atmosphère du film, de leur donner justement une tonalité, et que justement, que ce soit l'image, la déco, etc., ils n'avaient pas à prendre ça en charge. Parce que justement, l'intérêt d'avoir la musique en amont était qu'elle puisse avoir son propre discours et ne soit pas dans un accompagnement, presque dans un travail de stabilotage de ce qu'on a, à l'image.
Dans Vincent doit mourir, le personnage du titre, incarné par Karim Leclou, est agressé sans raison par des gens dès que ces derniers le regardent. La partition soutient le registre de l'horreur, lorgnant vers le cinéma de John Carpenter par ses notes synthétiques.
John Cassède, alors c'était quoi votre premier contact avec le film? Quels ont été les mots qui vous ont inspiré dans la présentation du film?
Alors le premier contact c'était le scénar. Et comme expliquait Stéphane, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il réécrivait le scénario, qu'il le faisait évoluer avant d'arriver au tournage, j'avais le droit à des updates tous les 2 mois du nouveau scénario. En fait ce que je faisais c'est que je composais en lisant. J'envoyais à Stéphane une quinzaine de tracks. Lui, il me disait, ok, tel moment intéressant, tel moment est intéressant. Et ensuite, on faisait des boutures à partir des moments qu'il avait pointés. Et hop, je recomposais des nouveaux morceaux. Et au fur et à mesure, tout ce qui ne l'intéressait pas a disparu. Et il est resté une sorte de substance bizarre qui était notre terrain commun. Et avec aussi le... Ce qui est le plus compliqué, c'est d'essayer de comprendre. Parce que même malgré le fait qu'on ait un scénar, il y a 10 000 manières de passer du scénar à l'image. Donc le plus difficile, c'est d'essayer de comprendre ce que lui, il a dans la tête. Et donc c'était ça l'enjeu en fait, c'était, moi je lisais, je me faisais mon film, mais il fallait que le film que je me fasse soit le plus proche possible du sien. C'est une sorte de dramaturgie parallèle, etc. Mais on se rendait bien compte qu'il fallait qu'on soit assez minimaliste, qu'on arrive à raconter beaucoup en donnant pas trop d'informations. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'énorme développement harmonique, c'est plus... sur une note qui va se développer, etc. On se disait au début, il faut que ça avance. Il faut qu'on ait l'impression que le personnage, il est pris dans quelque chose qui le dépasse. Que ce soit quand c'est calme, quand c'est plus intense, etc. On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui pousse derrière et qu'il le dépasse lui, quoi. Et voilà.
L'aspect genre était l'intention de départ qui a guidé la musique.
J'ai donné aussi des références à John, des musiques qui pour moi étaient me semblait en tout cas un bon terrain de chasse pour le départ. Donc effectivement, il y avait des choses du genre, bon, Carpenter, bien sûr, enfin bon, ça, qui ne l'aurait pas entendu. Et puis également aussi de la musique 70s comme Tangerine Dream, et aussi des choses plus anciennes comme Malheur et surtout aussi Shostakovich. Ça nous semblait intéressant de partir de ces références qui sont assez éclatées, mais comme on était dans un film de toute façon au genre éclaté, au carrefour des genres, musicalement c'était aussi intéressant d'être dans cette piste-là. L'autre idée, c'est qu'il fallait qu'il y ait un travail aussi comme de leitmotiv sur des personnages, sur des situations, sur le phénomène, sur la violence, sur une chose qui monte en puissance, comme le disait John, et qu'on soit dans un rapport justement entre image, voix et musique qui soit finalement assez proche, et c'est pour ça que je parle du mot dramaturgie, assez proche de l'opéra. C'est-à-dire que si par exemple on prend la scène où il rencontre Joachim, la personne qui a le même problème que lui, si vous enlevez la musique de ce moment-là, on perd 50% finalement de l'aspect fantastique. La partition qu'a composée John pour cette scène-là fait que tout d'un coup, la parole de Joachim, qui est la parole d'un clochard, qui est la parole de quelqu'un qui aborde Vincent comme quelqu'un peut nous aborder dans la rue, avec cette musique-là, tout d'un coup, ça prend une dimension presque mythologique et fait que le rapport texte et voix est dans une chose en symbiose, comme à l'opéra où, si on prend la ligne de n'importe quel livret, ça peut être con comme la lune, et tout un coup avec la musique, ça devient extraordinaire. J'ai coutume de donner l'exemple de Don Giovanni, l'entrée du commandeur. Le commandeur, il rentre, c'est une scène effrayante que tout le monde, même qui ne connaît pas l'opéra, a déjà entendu. Si on prend le texte, c'est « Don Juan, tu m'as invité à souper, je suis venu ». Bon, c'est pas très terrifiant. Vous rajoutez les accords de Mozart, tout d'un coup, c'est effrayant, ça prend une dimension totalement mythologique. Et c'est vrai que c'était des choses, nous, auxquelles on tenait beaucoup. Ce qui est intéressant avec la musique là-dessus, c'est que ça apporte du sens, ça apporte une compréhension qui, justement, ne passe pas par les mains, où chacune et chacun peut se livrer à sa propre interprétation.
En effet, on parlait de John Carpenter. Moi, j'ai pensé donc à Christine avec la voiture, avec des plans sur les phares de voiture, aussi au village des damnés, évidemment, sur le regard des enfants qui vont agresser l'adulte. Vincent doit mourir. Vincent, c'est donc Karim Leclou qui, dès que voilà, il croise un regard, la personne veut l'agresser. Il y a un chien qu'il va prendre, qui va lui annoncer presque ce qui va se passer. C'est-à-dire que le chien va commencer à grogner au moment où il va détecter une menace possible. Et parfois, chez John Carpenter, la musique joue le rôle du chien. C'est-à-dire que parfois, la musique va commencer à apparaître pour anticiper. Et donc, musicalement, ma question, c'est par rapport au placement. Le placement musical est très important dans ce genre de film. Voilà, quelles ont été vos réflexions sur ce placement ?
Toutes les premières agressions, il n'y a pas de musique. Il y a le générique qui pose une sorte de contrat, comme ça, où on sait, entre guillemets, à quoi s'attendre. Donc, on a mémorisé ça. Et ensuite, il y a juste un petit son qui pourrait être l'équivalent du grognement du chien après, mais juste une sorte de petite trame. Et à chaque fois que ça agresse, le son s'arrête et c'est le silence. On n'entend que le son des coups et le son des agressions. Et la musique commence bien plus tard, quand il quitte la ville, en fait.
La fréquence arrive après la première agression. C'est-à-dire qu'il reçoit des coups de portable dans la gueule, et une fois qu'il a reçu des coups de portable, il y a cette première fréquence qui arrive, qui traîne, et qui après va accompagné sur la deuxième agression, c'est-à-dire que la première agression commence sans musique, mais pendant l'agression, la fréquence vient, et après, cette fréquence joue le rôle, effectivement, du chien. C'est une construction qui se fait vraiment step by step.
Donc la question du placement, il y a aussi, j'imagine, des ajustements faits au montage, une musique donc pensée en amont, mais ajustée au montage. Le montage, c'est même aussi parfois calé sur la musique. Enfin, comment vous avez travaillé là-dessus ?
Là, c'est du pur ping-pong. On a les musiques en amont, Steph s'en inspire et fait parfois le montage par-dessus, et ensuite il y en a certaines avec lesquelles ça colle pas, et moi je reprends le montage de la musique, et même on fait vraiment des fois plus qu'un ou deux allers-retours. Si bien que le but du jeu, finalement, c'est que la musique et l'image ne fassent qu'un seul objet et qu'on ne puisse pas savoir qui a travaillé avant. Même les moments, finalement, où c'était plus simple, où la musique était déjà faite avant, on peut très bien capter que voilà, ça a été monté par-dessus. Et d'autres moments où même moi, j'arrive plus à savoir à quelle étape on en est du ping-pong.
Il y a eu du ping-pong, mais il y a très peu de morceaux qui ont été retouchés. Il y a vraiment, je dirais, 2-3 séquences où il y a eu du ping-pong, et comme en plus je peux être un peu chiant, il y a eu parfois sur certaines séquences beaucoup de ping-pong. Mais en fait, c'est aussi un des avantages d'avoir la partition avant, c'est que justement, plutôt que d'avoir les images et que la musique se cale après, c'est que là, pour le montage, on avait des séquences où justement, c'est la musique presque qui allait guider le sens du montage qu'on avait fait avec Méloé Poilvé, la monteuse du film.
Stéphane Castan, vous venez du spectacle vivant et John Kasseb faisait partie de votre troupe, comme les comédiens.
Pour moi, la troupe, c'est la troupe au sens large, c'est-à-dire que c'est autant les comédiens que l'équipe technique. Justement, je ne veux pas mettre de hiérarchie là-dessus, on est une troupe, on réfléchit ensemble et on fait avec aussi bien nos talents que nos faiblesses, et c'est ça qui fera le ton du film en général. Mais moi, je n'étais pas metteur en scène, moi, j'étais comédien. Et John participait, composait la musique de ces spectacles-là. Mais nous étions tous les deux des mercenaires, nous avions accepté des contrats.
Et donc, John, du spectacle vivant, justement, à l'image d'un film, j'imagine le travail est différent, ou alors il y a quand même une continuité pour vous ?
Oui, c'est différent quand même, c'est différent. Alors, putain, j'ai jamais trop réfléchi à ça, mais surtout que moi, ce qui m'intéresse au théâtre, c'est le fait que ce soit fait en direct, et donc je l'aborde un peu comme un concert. Et donc souvent, tu n'as pas le droit à l'erreur, c'est plus l'art de composer en direct et d'être juste en une prise. Là, le cinéma, c'est de la littérature, quoi. C'est-à-dire qu'on peut retravailler. Le travail est plus dans le temps, s'étale dans le temps. Et faut réussir à trouver le moment juste, mais en ayant vraiment le temps de le composer. Donc, c'est pas tout à fait le même art, quoi.
Stéphane Castan, vous étiez comédien, et dans le spectacle vivant, la musique est parfois présente, donc évidemment, sur le plateau, et conditionne aussi les comédiens. Dans quelle mesure, Stéphane Castan, la musique conditionne votre travail à la fois de comédien, mais aujourd'hui, en tant que réalisateur, est-ce qu'une musique était présente sur le plateau pour conditionner, même si c'est un film, les comédiens ?
Pour moi, la musique est fondamentale, vraiment. Même si je fais ce qui a pu m'arriver, un film sans musique, dans l'écriture, dans la préparation, j'aurai quand même une musique. Il y aura quand même quelque chose, un morceau qui va m'accompagner. Ce qui fait que d'ailleurs, en dehors de toute la partition de John, il y a Vanilla de Dave. Alors c'est une perversité de ma part, j'en suis conscient. Pour moi, il y avait une évidence sur cette musique un peu vintage, où quand on écoute les paroles, ça colle complètement avec l'histoire. Il y a cette espèce de cri, comme presque le cri de Vincent, et qui est dans la tonalité du film. Mais pour moi, la musique, je l'ai fait écouter au chef-op, à la déco, ça leur permettait aussi vraiment de comprendre l'esprit, et pour les acteurs également. Alors, je n'ai pas diffusé sur le plateau, parce qu'il n'y a pas eu de scène qui, pour moi, nécessitait cette chose-là, mais c'est une chose que je n'exclus absolument pas, que parfois, on mette la musique au plateau mais justement, au-delà des acteurs, pour tout le monde, il y ait cette chose-là.
On a évoqué l'aspect horreur, mais on n'a pas évoqué la romance, parce que ce Vincent, donc, dans Vincent doit mourir, va rencontrer une jeune femme, Vima Laponce, qui vit dans une péniche.
À son propre thème qu'on entend quand ils se rencontrent, et qui est un thème que John a décliné, développé, quand après Vincent stalk Margot sur internet, et quand après ils vont sur le bateau, il y a une petite mélodie qui accompagne leur histoire d'amour.
En tout cas, elle paraît être sur le même registre que les autres musiques, ça dépareille pas.
C'est le même rapport harmonique, mais sauf que toute l'instrumentation, les synthés, etc. sont virés. Et elle est juste reprise 2 octaves en dessous au Rhodes. Le tempo est ralenti, tout est ralenti, c'est le moment dans le bateau, quand il fume un joint, etc. Là. C'est épuré, c'est calme, c'est presque détente. mais c'est le même rapport harmonique qu'on retrouve quasiment tout le film, mais qui est instrumenté de manière différente en fonction des situations.
C'est pas une musique comme on pourrait imaginer, surplombant, avec des cordes, etc. J'ai l'impression que cette musique-là, elle est en fait finalement dans la tête de ce personnage, et elle ne quitte pas sa tête. Et donc quand il est effrayé ou quand il est amoureux, j'ai l'impression que voilà, c'est la musique lui colle à la peau, quoi.
Dans notre processus de travail avec Steph, au début on a décidé de créer un gros morceau qu'on avait appelé la matrice. C'est une sorte de boléro de Ravel, c'est-à-dire que c'est à chaque fois un instrument qui reste, un autre qui se cumule, qu'on retrouve un peu dans le générique. C'était un peu tous les états dans lesquels Vincent allait se retrouver au cours du film. Donc il y a où on sent le premier, t'as juste un Rhodes qui fait une note comme ça, doum 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 doum. Ça c'était ce qu'on appelait entre nous l'étape 1, le module 1. Il est quasiment au point 0, on sent qu'il y a quelque chose, mais voilà. Ensuite il y a le piano qui rentre avec un kick, donc ça c'est l'étape 2. C'est le moment où d'un coup ça commence, il y a une action qui se passe, etc. Et au fur et à mesure, et quand le synthé se déclenche. Et donc en fait on avait comme ça 7-8 états qui correspondaient un peu à tous les états dans lesquels il allait se retrouver, du plus calme au plus intense. Et donc ensuite on s'est permis d'extraire chaque partie et de recomposer les morceaux en fonction de ce qui se passait à l'image. Donc ce que tu disais, c'est ça passe tout par lui. Ben oui, effectivement, dans le processus, il y avait quand même ce truc d'avoir un fil conducteur qui était son état d'esprit, un peu, enfin, ou son sentiment, quoi.
Et Stéphane Castan, en tant que réalisateur, le rapport à la musique, c'est toujours très délicat, parfois, la musique pour un réalisateur qui a peur, finalement, parfois, qu'elle surplombe le film. Voilà, quel est le regard de cette place-là de la musique à sa juste place, justement ?
Je n'ai absolument pas peur de la musique. Encore une fois, la musique est, pour moi, nécessaire, essentielle. Ce dont il faut se méfier, en fait, c'est, mais j'ai envie de dire comme avec tous les langages dans un film, c'est les attendus, c'est-à-dire les lieux communs par rapport à la romance. Pour moi, des cordes sur une romance, par exemple, pour moi, c'est une histoire d'amour qui déjà m'emmerde. C'est évident, a priori. Ou alors on est dans du doudou glaceur, quand on est dans du très grand mélodrame, mais qui va, faut que ça aille très très loin pour que tout d'un coup ça devienne intéressant. Faut que ça soit dans le trop. Ce qui m'intéressait avec John aussi, par rapport à la comment on allait accompagner cette histoire d'amour entre Margot et Vincent, c'était au contraire d'être presque dans une ligne mélodique qui au contraire allait être très pure, très avec le moins de commentaires possible. En fait, le problème de la musique, je pense pas qu'il faille avoir peur d'une musique qui surplombe, mais d'une musique qui commente. Alors que ce qui est intéressant, c'est que la musique raconte quelque chose, que ça soit de l'ordre de l'état d'âme des personnages, que ça soit de l'ordre si on travaille avec des leitmotifs et par le croisement des leitmotifs, qui racontent quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est formidable avec la musique, qui tout d'un coup va pénétrer le spectateur et va comprendre autrement qu'à travers une ligne narrative ou des dialogues. Ce qui est formidable avec ça, c'est que chaque spectatrice et spectateur peut s'inventer son propre sens.
La réussite, c'est que la musique existe pleinement. Elle est vraiment entendue, bien mixée au-dessus, et en même temps, elle fait corps au film. Et donc, on peut aussi l'ignorer, enfin, elle n'est pas là pour se faire remarquer. John Cassep, dans votre méthode de travail, est-ce que vous écrivez une partition au sens classique, ou alors vous passez par le clavier pour trouver les idées ?
Les deux. Stéphane me disait tout le temps, je veux qu'on puisse écouter la musique toute seule, sans regarder le film. Il me disait aussi, je voudrais que on entend 2-3 notes et on se rappelle du film. Classique, donc et même nous dans nos discussions il y a beaucoup de musique classique, et parce que ça permet même de nettoyer un peu toutes ces histoires de style, de texture, de couleur de son, et d'être que sur un rapport de rythme, d'harmonie, etc. Et finalement la musique classique c'est vraiment notre base. Même quand après tu peux retransformer ta partition avec un Moog, mais tu as les mêmes problématiques que si tu avais un violoncelle. Et donc ça nous permet de nettoyer, de ne pas tomber dans des problèmes. Parce que parfois, même sur une bonne musique, si tu n'as pas choisi le bon synthé, elle est difficilement audible et ça donne, d'un coup ça va rajouter une couleur. Alors que là, on est vraiment sur la bonne base quand on parle de classique, etc.
Et le travail, c'est un peu l'antithèse d'Hans Zimmer. Hans Zimmer, lui, vient de l'électronique et il fait de l'électronique jouée par un orchestre. Et vous, vous êtes dans une écriture classique jouée par un synthé.
Ouais, c'est exactement ça. Alors, Stéphane a une grosse culture musique classique, opéra, etc. Moi, j'ai 12 ans de conservatoire en piano classique et classe de compo. Oui, on parle plus souvent de Bach et Shostakovich, ou même on a eu des gros débats sur Schumann, etc., que de musique électronique. Alors, moi, j'écoute de la musique électronique à fond. Hein. J'ai mes références, même en musique de film, c'est plus souvent des musiciens contemporains, etc. Mais n'empêche que quand on discute, ouais, on a plus des discussions sur qui daterait du 18e siècle que de ce qui se passe cette année en musique.
Oui, complètement. Je trouve que c'est très juste que le parallèle que tu fais avec le travail de Zimmer, parce que c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que quand on entend les premières partitions d'ailleurs de Zimmer, je crois une des premières partitions, c'est dans Travail au noir de Skolimowski, où c'est vraiment des sons. Ça, elle est très très belle dans sa partition. Et c'est assez étonnant de voir son évolution où tout d'un coup il s'est mis à. Effectivement, à faire. Même parfois, d'ailleurs, on a l'impression, sur le monde de transition, qu'il fait du Vangelis, quoi. Et ce qui fait que c'est à la fois, ça peut être autant formidable, le travail de Zimmer, que parfois, ça peut un peu chier du marbre, quoi. Et c'est vrai que dans la démarche, dans nos échanges pour la musique de John, c'est au contraire de toujours partir de. Au contraire de l'épure, ça convient souvent à Bach, hein, parce qu'il n'y a pas à chier, quoi. C'est. Bach, ça, tu peux le passer dans tous les styles, ça restera toujours formidable. Comment justement rendre contemporain cette chose-là, et que ce soit à travers des sonorités, à travers des mélanges de textures, d'orchestration. Et c'est marrant, parce que je m'étais pas fait cette réflexion, mais ouais, je trouve que cette réflexion sur Zimmer, elle est vachement bien.
Bon, on va conclure là-dessus, sur Zimmer. Merci Stéphane Castan, John Kasseb, pour Vincent doit mourir.